La supercherie dans l'humiliation. Tu as causé par ta déraison une peine infinie à ton prochain, et tu as détruit un bonheur sans retour. Maintenant, tu surmontes ta vanité, tu vas t'humilier auprès de lui. Tu voues, devant lui, ta déraison au mépris, et tu t'imagines qu'après cette scène difficile, extrêmement pénible pour toi, tout est arrangé, que le dommage volontaire de ton honneur compense le dommage involontaire du bonheur de l'autre. Rempli de ce sentiment, tu t'éloignes, réconforté, avec le sentiment d'avoir réparé ta vertu. Mais l'autre a gardé la profonde douleur qu'il avait précédemment. Il n'y a rien du tout de consolant pour lui dans le fait que tu es déraisonnable et que tu le lui as dit. Il se souvient même du spectacle pénible que tu lui as procuré en te méprisant devant lui, comme d'une nouvelle blessure qu'il te devrait. Il ne songe cependant pas à la vengeance et ne comprend pas comment, entre toi et lui, quelque chose pourrait être aplani. Au fond, tu as joué cette scène devant toi-même, pour toi-même. Tu y avais invité un témoin, encore à cause de toi et non à cause de lui. Ne sois pas ta propre dupe. La dignité et la crainte. Les cérémonies, les costumes d'apparat et de dignité, les visages sérieux, les airs solennels, les discours contournés et tout ce qui en général s'appelle dignité, c'est la manière d'envisager les choses propres à ceux qui portent la crainte au fond d'eux-mêmes. Ils veulent ainsi inspirer la peur, d'eux-mêmes ou de ce qu'ils représentent. Ceux qui sont sans crainte, c'est-à-dire primitivement ceux qui sont toujours et indubitablement terribles, n'ont besoin ni de dignité ni de cérémonie. Par leurs paroles et leurs attitudes, ils soutiennent le bon et davantage encore le mauvais renom de l'honnêteté et de la loyauté, pour indiquer qu'ils ont conscience de leur caractère redoutable. Moralité du sacrifice. La moralité qui se mesure d'après l'esprit du sacrifice est celle de la demi-sauvagerie. La raison doit remporter une victoire difficile et sanglante dans l'intérieur de l'âme. Il y a là à terrasser de terribles instincts contraires. Cela ne peut pas se passer sans une espèce de cruauté, comme dans les sacrifices qu'exigent les dieux cannibales. Oui, il faut désirer le fanatisme. On ne peut enthousiasmer les natures flegmatiques qu'en les fanatisant. L'œil que l'on craint. Il n'y a rien que les artistes, les poètes et les écrivains craignent plus que l'œil qui s'aperçoit de leur petite supercherie, qui se rend compte après coup qu'ils se sont souvent arrêtés à la limite avant de s'adonner à l'innocente joie de se glorifier eux-mêmes ou de tomber dans les effets faciles. L'œil qui vérifie s'il n'y a pas des choses minimes qu'ils ont voulu vendre trop cher, s'ils n'ont pas essayé d'exalter et de parer sans être exaltés eux-mêmes. L'œil qui, à travers tous les artifices de leur art, voit la pensée telle qu'elle se présentait primitivement devant eux, peut-être comme une ravissante vision de lumière, mais peut-être aussi comme un emprunt à tout le monde, comme une pensée quotidienne qu'il leur fallut délayer, raccourcir, colorier, développer, épicer, pour en faire quelque chose, au lieu que ce soit la pensée qui fait d'eux quelque chose. Oh, cet œil qui remarque dans votre ouvrage toute votre inquiétude, votre espionnage et votre convoitise, votre imitation et votre exagération, qui n'est qu'une imitation envieuse, qui connaît la rougeur de votre honte, aussi bien que votre art de cacher cette rougeur et de lui donner un autre sens devant vous-même.